Aujourd'hui, on retrouve Pierre Léco de Décoder Léco, qui est statisticien, qui a une chaîne YouTube avec quand même 50 000 abonnés et qu'on avait eu le plaisir de voir, mais on était un peu frustré dans le dernier Doctoton, un peu frustré parce qu'il y avait encore des choses à dire et on a décidé avec Pierre de faire une série d'émissions, je crois qu'une dizaine, hein, tu vas nous préciser. Bonjour Pierre.
Bonjour Alexandre, merci de me recevoir.
C'est très important et tu fais un travail essentiel hein, puisque tu es statisticien, tu te bases sur des données officielles, il faut le dire, il faut toujours le préciser que ce ne sont pas des chiffres que tu vas chercher n'importe où. Et donc on a décidé d'appeler cette série Fabrique de la panique, braquage des comptes publics, ce qui en dit long. Et le premier épisode c'est Y a-t-il eu hécatombe quelque part ? Alors évidemment un titre un peu provocateur hein, puisque dans les médias mainstream, les médias de l'oligarchie comme je les appelle et que d'autres les appellent, ils nous ont dit qu'il y a eu hécatombe et que c'était dramatique, mais tu vas nous montrer avec des graphes, des statistiques, des données publiées par des organismes officiels que ce n'est pas le cas en fait hein, je pense il n'y a pas vraiment eu hécatombe et tu vas comparer ça aux autres années. Est-ce que voilà, tu peux rajouter quelque chose avant de commencer, sinon on se lance dans ce premier épisode et on espère que les gens vont nous suivre nombreux parce que voilà, j'ai déjà vu ce que tu faisais, beaucoup de gens voient ce que tu fais et je crois que c'est un travail essentiel qu'ils ont du mal en face dans le camp, disons, adverse, pour un peu caricaturer, à remettre en question et c'est pour ça qu'ils préfèrent censurer.
Oui, alors tout ce que je vais rajouter, c'est finalement ce que je vais dire dans la présentation qui va suivre. Donc le mieux, je pense, c'est de partir sur la présentation. Je propose que je vais vous partager mon écran pour vous montrer.
Et je précise, Pierre, puisqu'on s'est mis d'accord, que si des gens ont des questions pour que tu précises les choses, il y a mon collègue qui regarde les questions. Et si c'est des questions plus générales, on essaiera à chaque épisode suivant de reprendre... de résumer un peu les questions qu'il y a eu. Mais s'il y a une question de précision quand tu parles, n'hésitez pas à la poser sur la messagerie du stream.
Oui, tout à fait. Le mieux, c'est que je réponde en cours. S'il y a des choses où je vais un peu vite, ça fait 2 ans que je travaille ces données, que je fais des présentations. Donc, évidemment, il y a certaines choses qui, moi, peuvent me paraître évidentes et qui ne le sont pas. Donc, le mieux dans ces cas-là, c'est de m'arrêter et que je précise ce que je suis en train de dire. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, qui est la première à mon sens, c'est y a-t-il eu une hécatombe quelque part ? L'idée quand même, au bout de 2 ans de crise, c'est de retrouver ce que je dirais du bon sens, c'est-à-dire d'arrêter de paniquer. Mais ça, je pense que les gens ont arrêté de paniquer. C'est normal d'avoir paniqué au début, d'avoir été stupéfait par la situation. Mais maintenant, il faut quand même dresser un bilan objectif de ce qui s'est passé, des mesures qui ont été prises. Voilà, dresser un bilan neutre, objectif et dans le calme. Donc c'est ce qu'on va faire et il y a énormément de choses qui ont été faites, énormément de données qui ont été produites. Et il s'agit de les reprendre dans l'ordre tranquillement pour essayer d'évaluer la situation. Donc y a-t-il eu une hécatombe quelque part ? C'est bien l'idée. Ça va se faire. Je vais vous proposer une petite présentation en 3 points. La première chose, c'est qu'on va aller voir comment est-ce qu'on retrouve les bons chiffres et qui est hécatombe dit mortalité. Ensuite, comment est-ce qu'on compare ce qui est comparable, parce qu'il ne faut pas comparer des choux et des carottes, surtout en statistique, ce qui a été malheureusement fait depuis 2 ans. Et on conclura sur le fait que, d'après les différentes données officielles que je vais vous présenter, il n'y a eu aucune hécatombe nulle part. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est retrouver les bons chiffres. Il s'agit de s'affranchir de ce qu'on peut appeler la propagande de la peur, donc c'est-à-dire des chiffres qui vont vous mettre le focus sur quelque chose et qui vont vous faire peur. Donc ça, c'est la première partie, c'est donc tout ce qu'on voit dans les médias sur Internet, la propagande. Et donc ici, vous voyez au World in Data, les chiffres qui ont été proposés, qui sont proposés sur ce site-là, avec des cas confirmés de Covid, avec des courbes qui explosent, des nombres gigantesques, ou bien ce genre de choses, ça c'est proposé par, c'est le dashboard qui est proposé par l'université Johns Hopkins. Donc voilà, vous retrouvez un peu les mêmes... figure que ce que vous avez sur des jeux comme The Plague ou sur la pandémie, où vous voyez voilà, des zones en rouge.
Il y a une identité graphique. Excuse-moi, Pierre, il y a une identité graphique qui est un peu la même que ce qu'on peut voir dans des jeux, c'est intéressant. Le rouge, alors, c'est les cas, les taux de mortalité, le nombre de morts ?
C'est le nombre de cas totaux, il faudrait encore définir ce que c'est, mais on y reviendra probablement plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, avec des morts en blanc, et puis bah, évidemment en vert, qui est la couleur pour dire qu'il se passe quelque chose de bien, ce sont des vaccinations. Et donc, mais il s'agit bien d'une carte pour faire peur avec des points. Et là, pour tous ceux qui ont joué, même au jeu Pandémie, au jeu de société, on retrouve vraiment visuellement ce qui est proposé. Et donc, c'est une propagande qui fait appel à des choses qu'on connaît déjà. Et donc, rien qu'avec ce schéma-là, on interprète le fait que voilà, il y a une pandémie, des gens qui meurent, quelque chose qui se répand. Et il suffit de ce visuel-là pour, on va dire, lancer notre esprit sur tout un mécanisme qu'on a déjà en nous et du coup sur lequel on va pouvoir réagir. Donc en fait, il faut s'affranchir de ça pour retrouver du bon sens et repartir des chiffres sans se faire influencer par ce genre de visuel. Donc comment est-ce qu'on fait ? On va chercher les données officielles. Les données officielles, elles sont sur Eurostat, par exemple. Toutes les données que je vais vous présenter aujourd'hui sont sur Eurostat. On va parler de décès et on va la comparer à la population. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit des programmes qui sont publics et en ligne, déposés sur GitHub, c'est du R, où mes programmes se connectent aux données officielles des instances officielles, notamment de Eurostat, pour aller chercher les données officielles du nombre de décès et de population, pour ensuite en faire des statistiques. Et pourquoi est-ce qu'on va commencer par la mortalité ? Parce que la mortalité, c'est quand même ce qui définit le fait qu'il se passe quelque chose de grave, et notamment une pandémie. Comment savoir si on a eu une pandémie quelque part ? Eh bien, tout simplement, la donnée sur laquelle on ne peut pas tricher, c'est le nombre de morts. Donc, une pandémie, une guerre, un événement quel qu'il soit, on regarde le nombre de morts qu'il y a eu au passage de l'événement.
Ouais, et pas le nombre de cas, quoi.
Non, le nombre de cas, ça n'a pas de sens, surtout comme il est défini aujourd'hui. Voilà, si on comptait le nombre de cas de boutons qui sont apourés sur le nez des gens, bien, ce ne serait pas la peine d'en faire une crise d'État où on enferme les gens chez eux, où on ferme les hôpitaux et où on met en branle des passes, etc. Non, pour qu'il y ait quelque chose de grave, il faut le repérer avec un nombre de morts. Ce que je suis en train de dire, ça ne vient pas de nulle part, c'était la définition officielle de la pandémie. Qui était proposé même par l'OMS en 1999. Ça, c'est un extrait du rapport du Sénat qui a été fait en France suite à l'arnaque, puisque c'était reconnu comme une arnaque, de la fameuse pandémie H1N1, hein, sur lequel on a tenté de faire peur aux populations pour mettre en branle une panique et lancer une vaccination de masse avec les fameux vaccins grippaux H1N1. Donc, les rapports sont unanimes, et au Sénat français, le rapport est très clair, c'était une arnaque complète.
Oui, là, ils l'ont reconnu, hein, Pierre.
Et là, ils l' ont reconnu, tout à fait. Et donc, ce que dit notamment ce rapport de 2010 sur la fameuse pandémie H1N1 de 2009, c'est que juste avant le lancement de cette crise de panique de pandémie, l'OMS a changé sa définition. Parce qu'auparavant, pour dire qu'il y avait bien une crise, une pandémie, on se basait sur la gravité de ce qui se passait et notamment sur des morts. C'est écrit ici, là. Des types de maladies indiquant qu'une grave morbidité et mortalité sont probables dans au moins un segment de la population. Il y a bien cet effet de gravité. C'est ça qui définit une pandémie. Ça ne veut pas dire un virus trouvé quelque part. Une pandémie, ça veut dire des malades. Une pandémie, ce sont des malades partout, en grand nombre, à un moment. Enfin, ça veut dire partout dans le monde. Une épidémie, c'est quand il y a des malades qui arrivent. Une pandémie est grave s'il y a des malades et des morts. Et une pandémie, c'est quand il y a des épidémies partout, c'est-à-dire une augmentation du nombre de malades. Ça ne présage pas de pourquoi il y a des malades, c'est juste qu'il y a plus de malades. Et donc, pour déclarer l'état de pandémie, il faut de la gravité, il faut des malades et des malades graves. C'est ça qui peut lancer quelque chose, et pas un rhume avec des gens qui ont le nez qui coule. Et donc, ce qu'avait dit le rapport du Sénat à l'époque, c'est que le Sénat avait montré qu'au fur et à mesure du temps, l'OMS a changé sa définition de pandémie, de façon à inclure de plus en plus de choses et à enlever au fur et à mesure les critères de gravité. Donc en fait, pour déclarer de la pandémie, comme ça a été fait en 2009, il suffit de soupçonner le fait qu'il y a, par exemple, des virus qui circulent sans montrer qu'il y a des malades, c'est plus la peine. Donc là, en 2005, on voit que la définition évolue, mais on garde quand même de la gravité. Et en 2009, toute notion de gravité a complètement été supprimée. Donc pour lancer une panique et un état de pandémie, il suffit d'annoncer qu'on a trouvé un virus quelque part, sans que ça soit du tout, sans qu'il y ait aucun critère de gravité, et ensuite lancer des tests un peu partout dans le monde pour dire, regardez, on trouve le virus ailleurs.
C'est complètement orwellien, quoi. C'est vraiment les mots qui définissent le réel, quoi.
Exactement. Et donc, on a changé la définition de pandémie en passant d'un système initial où il y avait des malades avec des critères de gravité à quelque chose où, au final, ben, il n'y a même plus besoin de malades pour lancer une épidémie ou un système de pandémie. Et c'est ça qui a été à l'origine, c'est dénoncé par le Sénat français à l'époque de l'arnaque de H1N1 2010. Et on remarque que l'OMS, malgré toutes les attaques qu'il y a eu derrière en disant « c'est pas normal ce que vous avez fait », n'a pas changé sa définition et a gardé ce principe-là, ce qui fait que pour dire qu'il y a pandémie, il n'y a plus besoin de malades. Et donc, moi, ce que je propose, c'est de revenir à la définition initiale de l'épidémie. Y a-t-il eu des malades et y a-t-il eu une gravité épidémique, c'est-à-dire y a-t-il eu réellement plus de morts que d'habitude pendant l'événement et surtout pendant l'année 2020. Donc pour lancer quand même une crise sur laquelle on ferme toute l'économie, on empêche les gens de sortir de chez eux, on les masque, même on lance une vaccination obligatoire avec le fameux pass sanitaire, on met tout ça en branle pour des coûts qui sont colossaux, hein, des milliards et des milliards. Est-ce qu'on peut vraiment justifier tout ce qui a été fait sur la base de « y a-t-il eu une hécatombe quelque part ?»
Donc, alors Pierre, je t'arrête deux secondes parce qu'il y a une question de Patricia qui demande si, peut-être que tu y réponds, parce que tu te souviens au départ, on montre des morts en Italie, des cercueils, et voilà, tu le lis en bas, ceux qui nous suivent, qui sont là presque 300, voilà, est-ce qu'il y a eu autant de morts, ou est-ce que c'est un énorme mensonge? Moi, je peux juste avancer que Bernard Crutzen, dans son film « Ceci n'est pas un complot », a montré que des comédiens avaient été payés, des jeunes d'ailleurs, d'une trentaine, quarantaine d'années dans des hôpitaux, pour jouer les malades, et ces images étaient passées dans les médias. Qu'est-ce que tu sais sur l'Italie ?
Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on aura l'occasion peut-être de rentrer plus en détail sur ce qui s'est passé. Moi, ce que je vais vous présenter, on va bien parler des morts de manière officielle, et donc je vais vous montrer pour tous les pays d'Europe, en fait. Donc je vais répondre à cette question dans la suite.
Ok, on peut l'enlever et on...
Je vais y répondre, on va parler, je vous montrerai plus tard la carte de l'Italie. Dans cette vidéo, si vous ne voulez pas qu'elle soit trop longue, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé à chaque moment. On y reviendra plus tard dans d'autres vidéos suivantes. Là, on va faire des bilans annuels. Peut-on dire que sur l'année 2020, il y a eu une hécatombe au passage de la fameuse pandémie Covid-19 ou bien qu'elle a perduré en 2021? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et on ira dans le détail ensuite dans d'autres vidéos. Donc ça, c'était juste pour vous dire, retrouver les bons chiffres, c'est-à-dire on repart sur la définition d'une épidémie et d'une pandémie, c'est-à-dire on a des malades graves qui amènent à des morts, et donc ce qu'on va regarder, ce sont le nombre de morts officielles diffusées par les instances officielles, et on va les comparer à ce qui est comparable. C'est ce qu'on va faire maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des morts dans un pays? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des morts dans une population? Eh bien, le premier critère qui fait qu'on a plus de probabilité de décéder, c'est l'âge. Et plus on est vieux, plus on a une probabilité de décès qui est forte. Et le deuxième critère, c'est évidemment la population. On va y revenir. Ça, ce sont des graphiques qu'on a vus un peu partout. Pas tout à fait celui-là, mais quasiment, quoi. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait à partir des données Eurostat. Donc ça, c'est le nombre de décès annuels, donc sur une année. J'ai pris un pays, ici, c'est la France. Je vous montrerai la Belgique après. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que autour des années 2000, on avait 550 000 décès par an en France et qu'on est monté, là, en 2020, à 650 000.
Donc ça, c'est on va enlever Covid-19. Oui, voilà, comme ça, on voit les dates. OK. 2005, 2010, 2015, 2020. D'accord.
Voilà. Et donc, ça, c'est le graphique qui a été montré partout pour dire aux gens, regardez, c'est extrêmement grave ce qui se passe. On a vécu une hécatombe puisqu'on a eu une augmentation anormale du nombre de décès en France. Voilà. Donc ça, c'est un graphique qui sert notamment à faire peur. Je vous montre déjà d'emblée que ce graphique ne raconte pas tout à fait la même chose selon qu'on distingue par âge. Je vous l'ai juste mis de couleur. En bas, ce sont les décès des moins de 65 ans en France et en haut, les décès des plus de 65 ans. Vous pouvez voir d'emblée que pour les moins de 65 ans, il ne s'est absolument rien passé.
C'est même un tout petit peu moins ou bien c'est pareil, quoi. C'est significativement...
Exactement. Donc voilà, en France, les moins de 65 ans n'ont jamais été concernés par aucune hausse de mortalité, quelle qu'elle soit. Et ça, ce résultat, il est vrai pour toute l'Europe où on a des données. Mais voilà. Donc déjà, premier résultat, hein, si on a eu des augmentations de mortalité, et on en a, ça ne concerne que les plus de 65 ans. Je passe à la Belgique, on a eu exactement aussi le même type de graphique.
Et Pierre, je veux dire, ce que tu dis là, c'est quand même énorme, hein, cette information.
Oui, le
C'est quand même
PEP
une
est mort
information
en
par rapport à
2005.
ce qui était mis en place, je veux le préciser, par rapport à ce qui était mis en place après, et dont un jour, un moment tu parleras sans doute, mais tout ce qui est confinement, obligation du masque, et notamment pour les enfants, qui a des effets catastrophiques sur les apprentissages et sur le développement. Voilà, les gens, je le répète, les gens en dessous de 65 ans n'ont pas du tout été impactés par, en termes de taux de mortalité par le Covid.
Oui, sur l'année, en tout cas sur les années que l'on peut voir, il n'y a absolument aucun impact. Donc, c'est-à-dire que 80% de la population de tous les pays européens concernés, enfin, n'est pas concernée par aucune hausse de mortalité, bah, qui est l'aboutissement finalement de la gravité d'une pandémie si elle existe. Donc, de toute façon, ça c'est factuel, les moins de 75, 65 ans ne sont pas concernés par des hausses de mortalité et ça nulle part. Les pays les plus pauvres d'Europe, il y en a qui commencent à être concernés, on va dire, à partir de 60 ans. Mais sur les pays développés, 65 ans, en 65 ans, on ne voit rien. Et donc ça, je vous montre le même graphique pour la Belgique. Donc
En
c'est
Belgique, ouais.
qui a servi à dire, regardez, année exceptionnelle, avec une forte hausse de mortalité. Bon, alors, ce graphique-là, c'est le nombre de décès bruts. Et évidemment, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on compare des décès d'une année sur l'autre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a des nombres de décès différents? Eh bien, c'est le premier critère le plus important, c'est la taille de la population. Ça, je vous ai mis le nombre de décès chaque semaine entre l'Allemagne et le Liechtenstein. Qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce qu'en Allemagne, il y a à peu près 20 000 décès par semaine et qu'il n'y en a qu'une dizaine, même pas, au Liechtenstein? Ben, ce n'est pas parce que Liechtenstein, c'est un endroit très sûr et que l'Allemagne, c'est un endroit très dangereux. C'est juste qu'il y a 83 millions d'habitants en Allemagne et qu'il y en a 38 000 au Liechtenstein. Donc, fatalement, il y a beaucoup plus de décès dans un pays de 83 millions d'habitants que dans un décès que dans un pays de
Ouais.
38 000 habitants. C'est tout
Complètement
simple.
logique, ouais.
Donc, la première chose qu'on regarde, on ne regarde jamais des décès de manière brute, il faut les comparer par rapport à la population. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait que dans un EHPAD de 200 personnes, il y a environ, il y a environ au moins un décès tous les 15 jours? Et qu'est-ce qui fait que dans une crèche de 200 gamins, il n'y a jamais de décès et quand il y en a un, c'est un drame absolu? Eh bien, c'est juste l'âge des gens. Dans un EHPAD, on a des gens qui sont très âgés et donc qui sont prêts de décéder, alors que dans une crèche, on a des enfants. Donc le deuxième critère qui fait qu'on a des décès sur un territoire, c'est l'âge de la population. C'est primordial. Si vous avez un territoire avec plein de personnes âgées, vous aurez plein de décès. Si vous avez un territoire avec plein de jeunes, vous aurez peu de décès. Enfin, en tout cas, dans un pays développé, pas forcément dans un pays en guerre. Mais voilà, au passage d'un événement sanitaire, ce qui va compter, c'est la taille de votre population et l'âge des gens. Donc, ce sont les deux critères qu'il faut prendre en compte avant de faire des analyses. Et d'une année sur l'autre, dans un pays, dans un même pays, ces deux données évoluent. La population augmente ou diminue. En Europe, elle augmente. Et l'âge des gens aussi a tendance à bouger, notamment parce qu'on a des générations spéciales. Illustration. Donc ça, c'est la pyramide des âges de l'année 2000 en France. Donc une pyramide des âges, c'est les âges sont ici, là, sur les ordonnées. Ici, c'est par tranche d'âge de 5 ans. Et on met la part de la population ici chez les hommes et ici chez les femmes. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? En l'an 2000, on avait une grosse partie de la population qui avait moins de 55 ans. Bah, pourquoi? Parce que les générations du dessus, elles ont été soit tuées, soit elles ne sont pas nées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça c'est un gros creux de population qui est lié à la Deuxième Guerre mondiale. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle le baby boom, où bah, les gens se sont remis à faire des enfants et les Européens ont fait énormément d'enfants. Donc il y a une grosse cassure là. Donc ça, c'est la pyramide des âges en 2000 de la France. Et en 2020, bah, fatalement, les gens ont 20 ans de plus et hop, vous voyez la population, voilà, nos personnes qui avaient en dessous de 60 ans en l'an 2000, bah, elles approchent les 80 maintenant, c'est normal, elles ont 20 ans de plus. Mais puisqu'elles ont 20 ans de plus, il y en a beaucoup plus d'entre elles qui décèdent chaque année. Et donc le nombre de décès en France notamment, depuis les années 2000, il commence à exploser largement. Et tous les ans, quasiment, on bat le record de décès. C'est juste dû au fait que nos baby boomers, ceux qui sont à la Deuxième Guerre mondiale, ils vieillissent, ils arrivent aux âges où on décède. Et c'est tout. Donc, il faut absolument prendre en compte ce critère, surtout quand on a une cassure statistique énorme ici à des âges charnières. Et si je mets pour le
Oui.
niveau européen,
Est-ce que tu veux dire,
oui.
juste une parenthèse, ce que tu veux dire, Pierre, c'est que tu vas y venir sans doute, mais ils n'ont pas tenu compte de ça. de lâche.
En effet, les courbes qu'ils vous ont montrées, que les autorités sanitaires ont montrées, c'est juste l'augmentation du nombre de décès bruts. Et avec des phrases du style « Oh, c'est un record de décès jamais égalé 2020 », oui, le record précédent, c'était 2019. Le record précédent encore, c'était 2018. Tous les ans, on bat le record du nombre de décès, quasiment. Mais c'est normal, on a une population qui vieillit. Et donc ça c'est pour ça c'est la pyramide des âges, la même chose en Europe. Hein. Donc pareil, on voit la belle bosse ici d'un gros paquet de personnes post-Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'était en l'an 2000. Et en l'an 2020, ben voilà, on est un continent qui vieillit largement. Et le gros des troupes européens a autour d'une soixantaine d'années maintenant, et ça ne s'arrange pas. Donc en Europe, on a de plus en plus de décès. Et vu que vous voyez la plupart des jeunes générations, donc c'est-à-dire que le continent européen, c'est un continent qui, pour l'instant, augmente encore en taille parce que ces gens-là survivent encore, mais qui ça va diminuer. Hein. On est un continent sur lequel la population va diminuer de manière naturelle, puisqu'on a beaucoup de personnes âgées qui décèdent et qu'en fait, il y a très peu de naissances sur ce continent. Voilà, mais donc, ça veut dire que tous les ans, le nombre de décès augmente. On est plus nombreux parce qu'il y a des gens qui arrivent. Il y a aussi des gens qui naissent, et puis les personnes âgées finalement survivent assez bien sur le continent, et aussi un continent qui vieillit, donc les gens sont de plus en plus vieux, et donc le nombre de décès il augmente chaque année, il faut le prendre en compte. Et pour prendre en compte ces augmentations, il y a un calcul qui est officiel et qui s'appelle Age Standardized Mortality Rate, et donc c'est une définition de l'OMS, donc c'est-à-dire que normalement l'OMS nous dit ne regardez jamais les décès bruts, regardez toujours la mortalité standardisée par l'âge, c'est-à-dire prendre en compte la population et l'âge. Elle l'a fait jusqu'ici, jusqu'en 2020 où elle a oublié. Il y a Eurostat qui dit que c'est exactement ça qu'il faut faire aussi. Eurostat, c'est les données européennes, là où je vais chercher mes données. Et pareil, en 2020, pas un mot là-dessus. Il y a aussi Stat Canada, il y a aussi les seuls qui l'ont fait, qui c'est public, c'est l'Office statistique écossais, et donc eux ils le mettent en ligne, mais voilà, tout le monde a l'air d'avoir oublié que d'une année sur l'autre la population et l'âge évoluent et qu'il faut regarder, comparer ce qui est comparable. Et donc le calcul, il est officiel, il est en ligne, c'est celui que j'utilise, c'est celui-là pour ceux qui aiment les maths, c'est pour standardiser les morts. Il faut calculer un taux de mortalité, donc les décès divisés par la population pour chaque âge et remultipliés par la population de ce même âge, mais pour l'année sur laquelle on standardise, et moi j'ai standardisé en 2020. Donc moi, le calcul que je vais vous présenter, je vais vous montrer ce qu'auraient été les décès du passé si les années précédentes avaient eu la même population que 2020. C'est ça que je vais vous montrer. Donc là, c'est pour la France. Donc ça, ce sont les décès bruts dont on a parlé. Donc c'est-à-dire, ici, on ne prend pas en compte le fait que la population, finalement, elle augmente et que les gens sont de plus en plus vieux. Et donc, ce que je vais imaginer, chaque barre, là, ça, c'est l'année 2020, là. L'année 2020 a une certaine population avec des gens d'un certain âge. Je vais prendre cette population et ces âges-là et je vais les appliquer à toutes les années du passé. Comme ça, on va pouvoir regarder ce qui se serait passé dans le passé si jamais, dans le passé, on avait eu la même population que 2020.
Donc c'est ce que tu fais, c'est la standardisation, comme tu as dit. Exactement. C'est le seul mode de calcul qui ait du sens si on veut comparer dans ce cas-là, quoi.
Exactement. Et donc voilà ce que ça donne. Donc en France, en 2020, il y a eu 650 000 morts. Mais si en 2015, il y avait eu la même population que 2020, il y aurait aussi eu 650 000 morts. Et sur toutes les années avant 2013, si jamais il y avait eu la même population que 2020, aussi vieille et aussi nombreuse, il y aurait eu largement plus que 650 000 morts. Donc quand on standardise, c'est-à-dire qu'on prend en compte le fait que les gens vieillissent et leur nombre, on se rend compte que l'année 2020 en France, c'est la sixième année la moins mortelle de toute l'histoire de France. Et donc, on ne peut pas dire qu'il s'est passé une hécatombe en 2020 si l'année 2020, c'est la sixième année la moins mortelle de toute l'histoire de France. Donc, c'est ça qui se passe. Pour vraiment comparer, c'est ce calcul-là qu'il faut faire pour apprendre que finalement, l'année 2020 est une année banale, voire une année de relativement faible mortalité. Donc, certes, il y a eu plus de décès qu'en 2019, qui était une année exceptionnelle. 2019, c'est le record absolu de sous-mortalité jamais égalé nulle part dans le monde. Donc si on se compare à 2019, ah oui, il y a eu plus de morts, mais voilà, c'était une année exceptionnelle. Si on se compare à d'autres années, eh ben non, hein, c'est une année normale. Je peux vous montrer le même résultat pour la Belgique, je l'ai fait pour tous les pays d'Europe. Donc voilà la donnée qui fait peur avec les données brutes. Et maintenant, quand on standardise, bon, et encore, j'ai une fondation que par âge de 5 ans, on pourrait faire encore plus fin, eh bien on se rend compte que l'année 2020, c'est le même nombre de décès standardisés que l'année 2012 en Belgique. Donc en 2020, il est décédé en proportion le même nombre de personnes que dans l'année 2012. Voilà. Et comme ça a été dit tout à l'heure pour les jeunes, eh bien pour les jeunes, l'année 2020, quels que soient les pays qu'on regarde, c'est une année de très faible mortalité, donc on n'observe absolument aucun impact, et on est vraiment sur des années qui sont très très basses. Donc voilà, il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur, ou bien de se dire qu'il y a pu y avoir une hécatombe à la lumière de ces données en se disant que ben non, on est vraiment dans des années de basse mortalité relativement à ce qui s'est passé dans le passé.
En gros, tu me corriges si je me trompe, c'est comme si on mettait une population sur une île nouvelle, hein, des enfants qui grandissent, et qu'à un temps zéro, on parlait d'une certaine mortalité, et que 70 ans plus tard, on comparait, on dit tiens, 70 ans plus tard, alors qu'ils ont tous vieilli, ils ont tous 70 ans, le taux de mortalité est beaucoup plus fort, c'est un peu ça en fait.
C'est bien ça l'idée, et donc là on le fait chaque année, et donc en effet, si t'imagines qu'on fixait en effet nos personnes âgées, et puis on se disait, oui, à partir de 70 ans, et puis on compte tous les ans, on dit ah là là, ça va, il y a de plus en plus de morts sur cette île, l'île est de plus en plus dangereuse. Non, les gens vieillissent, c'est tout ce qui se passe, en effet. Et donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une mortalité qui est en effet plus haute que celle des justes dernières années précédentes, mais qui est plus basse que tout ce qu'on a vu avant. Donc il ne s'est pas passé une guerre, il ne s'est pas passé une hécatombe, ni en France, ni en Belgique, avec les données que je vous ai montrées. Mais alors, ni en France, ni en Belgique, mais j'ai pu faire évidemment le calcul pour tous les pays d'Europe, puisque tout est sur Eurostat, donc j'ai fait tout en même temps. Oui, j'ai parlé de 2020, mais 2021, c'est pareil. Hein, il n'y a pas eu d'hécatombe non plus en 2021. Ici, j'ai mis une couleur pour chaque pays sur lesquels les données sont disponibles sur Eurostat. Il faut que je n'ai pas fini, mais je vais faire aussi Irlande et tout ce qui est Grande-Bretagne, mais il faut chercher les données un par un parce qu'ils ne sont pas sur Eurostat, c'est un peu pénible. Donc voilà, ça, c'est la couleur que j'ai mis, c'est en fonction de l'année sur laquelle, en brut, il y a le plus de morts. Et donc, on voit que bah, comme on bat le record de nombre de décès chaque année, pour tous les pays qui vieillissent, l'année sur laquelle il y a eu le plus de morts, ici, sur tous les pays en orange, c'était 2020. Sur tous les pays en marron, c'est 2021. Alors, sur les pays nordiques, c'est un peu spécial, parce que les pays nordiques, la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont vécu, on va dire, de manière... on dit poliment qu'ils sont restés neutres, pour ne pas dire qu'ils ont allègrement participé, mais pas du bon côté. Mais voilà, donc eux, ils n'ont pas beaucoup de morts à cette époque-là, ce qui fait que ça se voit moins sur leur statistique de décès. Mais voilà, sur tous les pays qui ont eu pas mal de morts au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, là, on a tous les baby boomers qui décèdent, donc on bat le record de décès chaque année. Mais maintenant, si je standardise pour tous ces pays européens-là et que je fais le même exercice et que je regarde, la question c'est, est-ce que 2020, c'est une année de record absolu de mortalité ? Bien, je me rends compte ici que pour les pays qui sont en très clair, là, l'année 2020, c'est le record absolu de sous-mortalité pour ces pays-là. Donc, on a le Danemark, l'Islande et ici, c'est la Norvège. Et voilà, donc c'est un record absolu de sous-mortalité. On a des pays en un peu moins clair ici, comme l'Allemagne, la Finlande, la Suède. Ici, ça doit être, c'est quoi, Estonie, Lituanie peut-être. Ces pays-là, l'année 2020, c'est la deuxième année la moins mortelle de toute leur histoire. Voilà, donc ça valait le coup de paniquer. Et en France, comme en Suisse, comme en Autriche, en Hongrie, au Portugal, ou en Grèce et d'autres, l'année 2020, on est mort comme en année 2015, de la même manière, voilà, avec dans les mêmes proportions. Donc c'est pas une hécatombe non plus. Et dans le pire des cas, donc la Belgique en fait partie, l'Italie, ça a été dit tout à l'heure, l'Espagne, la Pologne, eh bien l'année 2020, c'est une année de mortalité relativement haute pour la décennie, c'est-à-dire qu'on est mort en 2020 comme on est mort à peu près en 2012. 2012 qui a eu également un hiver un peu rude. Donc la question tout à l'heure pour l'Italie, y a-t-il eu une hécatombe ? Alors, les Italiens sont morts en 2020 comme en 2012. Donc, il n'y a pas eu d'hécatombe non plus. Après, on verra dans d'autres vidéos ce qui s'est passé aux différentes dates et à différents moments et l'impact des décisions stratégiques, puisque c'est bien jusque-là qu'il va falloir aller. Mais la première chose à retenir, c'est en 2020, en 2021, il n'y a eu d'hécatombe nulle part. Donc en prenant la définition de pandémie qui ferait qu'il y aurait une maladie avec une gravité importante et un nombre de morts qui augmenterait significativement sur au moins une population, on n'a pas ça. Donc avec la définition de l'OMS d'avant 2009, d'avant les changements, jamais on n'aurait pu lancer la machine de crise comme cela a été fait. Ça n'aurait pas été possible. Ça ne répondait pas à la définition. Juste, je termine avec ce graphique-là qui est le plus compliqué. C'est un petit graphique qui représente, on est toujours en mortalité standardisée. Et cette fois-ci, vous avez en bas ici, c'est tous les pays d'Europe. Donc, c'est les premières lettres, Albanie, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie. Vous avez la France. Bref, donc chaque pays, j'ai fait comme si la population de ce pays, au cours du temps, avait été la même que la population française de 2020. Donc, je standardise tout, je mets la même population partout. Donc, et je regarde juste les taux de mortalité et je regarde ce qu'ils auraient été. Donc, pour chaque pays, je vous ai présenté les années du passé. Plus c'est foncé, plus c'est une année vieille, on va dire, après les années 2000. Et puis, je vous ai mis en rouge l'année 2020 pour que vous la voyiez. Donc, ce que vous voyez déjà, c'est que l'année 2020, en termes de mortalité globale, on va aller au milieu des, on va dire, entre 2000 et 2021, quoi. Donc, c'est pas une année de record exceptionnel, c'est une année qui est au milieu de ce qui a été vu par le passé. Mais ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que d'un pays à l'autre, on se rend compte que les différences sont énormes. Donc, on a des pays avec des très faibles mortalités chaque année, comme la France, la Suisse, par exemple. Ici, la Suisse qui est ici. Et donc, ce sont des pays sur lesquels on meurt très peu. Et à l'inverse, vous avez des pays ici comme la Bulgarie, où on meurt quand même énormément plus. C'est-à-dire que les gens vivent quand même beaucoup moins vieux, il y a beaucoup plus de morts chaque année. À chaque âge. Et donc, ce qui fait que la différence que vous voyez entre un pays comme la Bulgarie et un pays comme la Suisse, elle est sans commune mesure entre la Suisse de 2019 et la Suisse de 2020. Vous vous rendez compte de la différence ? Ce qui fait qu'on a des morts dans un pays, je vous l'ai dit, c'est la population et l'âge. Et le troisième critère, c'est le niveau de pauvreté des gens. C'est ça qui compte. La COVID-19, la crise... sans même parler de virus, la crise que nous avons vécue, sur laquelle on a tout mis ça, tout ce qui s'est passé, la différence de mortalité qu'on observe au sein de chaque pays, elle est ridicule. Ce qui fait la différence, c'est de savoir si vous vivez dans un pays pauvre ou pas. C'est ça qui fait que vous avez des morts. C'est la pauvreté, la richesse, le fait d'avoir accès même à des installations sanitaires, le fait de pouvoir manger à votre faim, d'avoir de l'eau propre. C'est ça qui fait que vous allez vivre longtemps. Ce n'est pas du tout les événements sanitaires.
Ça, évidemment, ça intéresse moins les multinationales et les gouvernements qui parlent beaucoup de lutte contre la pauvreté, mais qui, dans le concret, n'en font pas beaucoup. Donc, si pour comprendre, les traînées derrière les pays, c'est les autres années, et en général, on voit qu'elles sont assez petites, sauf dans certains pays, et donc que la différence de 2020 est rarement très significative. C'est ça, en gros. Par contre, la différence entre les pays, en fonction de facteurs de niveau socio-économique, est très importante.
Exactement. Ici, j'ai appliqué la population de la France. Donc, c'est-à-dire, ici, vous voyez en France, alors je ne vois pas à cause d'un truc qui m'a, je crois que la France, c'est celui-là peut-être.
Ouais,
donc,
c'est
vous
ça.
Voyez, en France, il y a eu 650 000 décès en 2020 pour une population de 67 millions d'habitants. Et on l'a vu, il y a à peu près il y a 15 millions de personnes qui ont plus de 60 ans. Mais j'applique la même population en Bulgarie. Eh bien, en Bulgarie, en 2020, s'ils avaient eu la population de la France, il y aurait eu 1 300 000 morts et pas 650 000. Donc, il y a presque, à population égale, il y a deux fois plus de morts en Bulgarie. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça, c'est la différence de richesse entre ces pays. Donc, pour chaque pays, si vous voulez, selon les années, on peut bouger le nombre de décès de quelques pourcentages, mais d'un pays à l'autre, on double le nombre de décès. C'est ça qui est important. Et donc, ce que devraient dire des organismes comme l'OMS, si jamais on se souciait réellement de la santé des gens, c'est qu'il faut éradiquer la pauvreté, point barre. Le reste, c'est un épiphénomène. C'est ça que je voulais représenter sur ce graphique. C'est ça qui est important pour la santé des gens, c'est leur accès à la richesse, on va dire, c'est le niveau de pauvreté. C'est ça qui est primordial.
Les événements ce qui tue beaucoup plus, c'est pas le Covid qui tue énormément, c'est surtout La pauvreté, c'est le premier critère. Quoi. Le
Exactement. Premier la pauvre... Alors, la guerre, le premier, mais bon, en Europe, en tout cas, ce donné-là, on est relativement préservé. Et la deuxième chose, c'est la pauvreté. C'est l'accès à tout ce qui fait qu'on peut avoir une vie décente, point barre. Et c'est là-dessus qu'on devrait se consacrer. Et quand il y a un événement qu'on appelle épidémie, les personnes concernées sont toujours les personnes en situation de plus grande précarité et de pauvreté. Donc, la première chose à faire pour éviter les phénomènes épidémiques, c'est-à-dire les malades, c'est de lutter contre la pauvreté, d'améliorer le partage des richesses, tout simplement, et de permettre aux gens d'accéder à de l'eau potable, de l'eau propre, des toilettes, des systèmes de santé compétents et cohérents. C'est ça qui fait qu'on s'en sort mieux. Et le reste, ce sont des épiphénomènes.
Je suis pas sûr que tes propositions intéressent grandement Bill Gates.
Donc voilà sur cette histoire de y a-t-il une hécatombe quelque part. Selon les données de mortalité, toutes causes confondues, que l'on peut trouver sur les organismes officiels, dont Eurostat, il n'y a eu une hécatombe nulle part. Donc là, je vous ai présenté tous les pays d'Europe. Je fais la même chose pour l'Angleterre qui n'était pas dessus parce que je n'avais pas les données, mais je suis en train de le faire, c'est le même résultat. Je l'ai fait pour Israël, pour un travail particulier, c'est le même résultat. Donc, à ce jour, je n'ai pas trouvé de pays qui diffuse ces données sur lesquelles on puisse dire qu'il y a eu une hausse forte de mortalité. Ça n'est pas vrai.
Donc, je précise encore, c'est que ce que tu fais comme opération statistique, c'est quelque chose qui est tout à fait connu dans le monde des mathématiciens, des statisticiens. C'est une standardisation, c'est ce qu'ils utilisent tous, mais qu'ils n'ont pas du tout utilisé en période de pandémie. Comment tu expliques qui soit arrivé, parce qu'il y a quand même des virus. Tu n'es pas le seul statisticien de France. On en revient à comme cet omerta général, mais que les gens se soient pas dit en voyant tous ces graphes, ça n'a aucun sens que vous nous présentez comme chiffres. C'est juste pour créer, comme tu l'as dit en tout début, de la peur.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a eu directement une pression médiatique qui était tellement forte qu'il y a beaucoup de gens qui ont paniqué. Et donc, les gens, je pense, ont intériorisé le fait qu'il se passait quelque chose de grave et n'ont jamais pu se sortir de l'idée qu'il fallait reprendre les choses calmement et analyser comme on faisait avant. Ils ont, brut de décoffrage, on va dire, pris les données les plus simples qui allaient dans le sens, qui allaient confirmer leur a priori. Donc, on a un biais de confirmation qui est que, de toute façon, on va chercher que les résultats qui confirment cette idée-là, qui est l'idée mainstream, hein, que tout le monde veut et que tout le monde a entendu, qui est de dire, voilà, c'est très grave, et donc, les données vont forcément dire que c'est très grave. Et en plus, il y a la bien-pensance qui a fait faire, j'en ai été témoin, à des chercheurs, des gens qui ont une certaine intégrité quand même, qui ont grossi le trait en choisissant les indicateurs les pires parce qu'il fallait, selon eux, protéger les gens. Donc, c'est-à-dire qu'on a pensé depuis 2020 qu'on avait le droit de mentir aux gens, c'est-à-dire leur montrer des chiffres bruts qui allaient dans le sens de la peur plutôt qu'une analyse factuelle avec les méthodes habituellement reconnues, parce qu'il était normal de faire peur aux gens parce qu'il se passait quelque chose de grave et donc il ne fallait pas leur dire la vérité nue qui était qu'en fait il se passe des choses au niveau de l'épaisseur du trait, mais qu'il fallait grossir au maximum pour les protéger. Donc c'était, on justifiait le fait de mentir aux gens pour les protéger, c'était pour leur bien. De la même manière que, voilà, y a certains, en régime dictatorial, on fait le bien des gens malgré eux, c'est ce qui s'est passé également au niveau de l'information. Pour votre bien, nous devons vous mentir en vous présentant les choses que sous un certain angle, celui qui nous arrange.
Donc ce que tu montres bien aussi, et ce que tu montreras dans les prochains épisodes, c'est qu'avec les statistiques, on peut donner un éclairage sur le réel, mais on peut aussi mentir très facilement, comme tu l'as montré aujourd'hui, en se focalisant sur les données brutes et tous les âges mélangés, alors que si on regarde les moins de 65 ans, on se dit « mais rien ne s'est passé ». Donc en gros, aujourd'hui, on peut tirer comme conclusion, il n'y a pas eu d'hécatombe. Et moi, j'invite tous ceux qui ont d'autres données, qui veulent te contredire, ils n'ont qu'à se manifester pour voir, parce que ça aussi, c'est un effet de cette période totalitaire, c'est que le débat, il est totalement absent. Je suppose qu'on t'a invité nulle part, que tu n'es pas été dans des grands médias et que voilà, ta voix ne s'est pas fait entendre alors que ce que tu dis est très intéressant.
Oui, d'autres ont été invités. Enfin, on a quand même vu Laurent Toubiana au début surtout. Et puis ensuite, voilà, il a fallu taire tout le monde. Il revient aujourd'hui avec son livre qui est très bien, Une autre vision de l'épidémie, et qui redit quand même... ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de hausse de mortalité pour les âges jeunes, de toute façon, nulle part où on regarde, et que sur les âges plus âgés, on est dans des choses qui sont plus hautes que les dernières années, mais qui sont comparables à ce qu'on a eu dans le passé. Donc, on ne peut justifier ce qui s'est passé sur la base de ces chiffres.
Alors, j'invite tous les gens qui nous suivent à s'abonner à ta chaîne, hein, Décoder l'écho, c'est bien ça, hein, à oui, nous soutenir aussi, nous, comme Média Libre, hein, puisqu'on nous prive ici, évidemment, de nos subsides, on nous attaque, on m'attaque sur ma carte de presse, c'est normal, c'est la preuve qu'on fait du bon boulot. Et donc, on se retrouvera, on n'a pas encore décidé quand, mais pour le prochain épisode qui sera sur, je peux déjà le dire, hein, Pierre, pas de saturation hospitalière, parce que ça aussi, ouïouïouï, les hôpitaux ont été débordés, mais je crois que, voilà, tu nous montreras que, en fait, ce n'était pas du tout le cas, et on l'a déjà montré dans d'autres interviews, mais tu vas creuser le sujet d'un point de vue statistique pour nous montrer ça, que, voilà, c'était aussi du spectacle, cette saturation hospitalière.
Oui, c'est bien ça. Là, on a fait la mortalité chaque année pour montrer qu'il ne s'est rien passé. On va prendre ensuite, il y a un organisme français qui s'appelle l'ATIH qui sort les statistiques et en fait un bilan annuel de ce qui s'est passé. Donc, on a le bilan 2020 et on va s'en servir pour montrer que sur l'année 2020 non plus, il n'y a pas eu de saturation hospitalière à aucun moment, ni même de réanimation. Donc, c'est officiel, hein, c'est sur le site de l'ATIH, les rapports sont publics, on peut aller les chercher. Depuis qu'ils ont été publiés, il y a des choses qui ont changé dans la hiérarchie de l'ATIH, je ne sais pas si tout ça a été très bien vu. Mais en tout cas, voilà, on a un document officiel qui utilise des données officielles pour dire que, il ne s'est pas passé ce qu'on a voulu nous faire croire dans les médias. Donc, on va commencer. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir sur les années, on dresse le bilan. Voilà. Au bilan de chaque année, il n'y a pas eu d'hécatombe et les hôpitaux ne sont pas saturés. Et ensuite, on descendra plus finement pour voir ce qui s'est passé au niveau de chaque période exactement, et on répondra à des questions qui ont été posées sur la stratégie et les impacts de cette stratégie possible sur la mortalité, pour voir finement chaque décision qui a été prise, ses impacts et ce que ça a fait sur la survie des gens à chaque période.
Oui, parce qu'il y a des gens qui posent... Il y a beaucoup de questions, hein. Il y a des gens qui demandent, qui parlent du confinement et tout ça, mais voilà, ça viendra plus tard. On va, Pierre et moi, on va regarder, on va disséquer un peu toutes ces questions et voir si on peut répondre à des éléments qui seraient liés à ce premier épisode, en début de deuxième épisode, et le reste, ben, toutes les questions qui sont liées à d'autres sujets, d'autres sous-thèmes, ben, on y répondra plus tard. Voilà, c'était super, merci Pierre.
Merci beaucoup.
Et on informera ceux qui nous suivent, qui sont là plus de 300, on ne les a pas prévenus à cette heure-ci, c'est génial. Partagez surtout pour rompre le spectacle gouvernemental et médiatique. Montrez ça, diffusez dans des lieux publics, sur des façades de mairie, où vous voulez, mais il faut que les gens entendent un autre discours, comme le disent les psychiatres et les psychologues spécialisés en manipulation de masse. Quand il n'y aura plus de contre-discours, on sera totalement... dans la sphère dictatoriale où tout le monde pensera qu'il n'y a qu'une vérité. Voilà, donc merci, mille merci Pierre.
Merci beaucoup Alexandre, je souscris complètement à ce que tu viens de dire, et en effet, et tu as raison, il faut rappeler que la science, c'est pas un consensus, la science c'est du dissensus, c'est du débat permanent, c'est du questionnement, voilà, c'est des questions, des réponses, des contre-questions, des contre-réponses permanentes, et c'est que comme ça qu'on avance. Et donc ce que l'on subit aujourd'hui, ça n'est pas de la science, ça n'est pas du tout un consensus naturel, c'est de l'ordre de la religion, en effet. On est dans l'ordre de la théologie, il n'y a que la théologie qu'on n'a pas le droit de contredire.
Merci Pierre, à très vite.
Merci Alexandre, à très vite.